7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Bonjour Rebecca Zlotowski.
Bonjour.
Votre nouveau film, Une fille facile, sort aujourd'hui même en salle. Il est question d'été, de corps alangui, de temps qui file et de passage initiatique, mais aussi de choix. C'est une sorte de conte à morale, diront certains. Deux femmes, deux cousines, 16 et 22 ans, prennent des voies différentes. La première, adolescente, est une bonne fille, encore un peu enfant, alors que la seconde, interprétée par la célèbre ex Escort Girl, Zaya, à qui le jeu de la séduction ne résiste jamais, et la fille facile. Mais tout d'abord, on va revenir sur ce titre, fille facile. C'est généralement une expression péjorative. Pourquoi l'avoir utilisée ?
Alors c'était une manière d'adresser un pied de nez avec un peu de malice quand même sur un stéréotype, un cliché, en reprenant un peu la phrase de Hitchcock, il vaut mieux partir du cliché que d'y arriver. Et je me disais, je crois que c'est une manière aussi de placer le spectateur immédiatement dans le préjugé qu'il va souhaiter ne pas épouser. En disant une fille facile associée à ce visage qui est Zaya Dehar, c'est-à-dire en fait l'évidence, on place le spectateur, puis moi aussi, dans la disposition immédiate de vouloir s'éloigner de son propre cliché.
On parle du visage de Zaya et il en est d'ailleurs très largement en question, de son visage, de son corps, des différentes opérations chirurgiques qu'elle est présumée avoir subies pour obtenir ce physique étrange. Pourquoi l'avoir choisi, Rebecca Zlotowski ?
Disons que dans un projet de film, il y a toujours des chemins qui nous y mènent. Parfois, c'est une pensée, une idée, une image, un désir. Et puis, de temps en temps, c'est plutôt rare, c'est une actrice. Un visage, une femme, une rencontre. Dans ce cas-là, dans Une fille facile, c'est vraiment la rencontre qui a déterminé le projet du film. Après, moi, je la connaissais comme tout un chacun. Il y a eu une affaire de mœurs il y a une dizaine d'années. Ça me la rendait plutôt, moi, sympathique. J'avais l'impression que toutes les femmes qui sont victimes comme ça d'opprobre, de curés dans l'espace public, ça me les rend plutôt touchantes. J'ai plutôt envie de me positionner de leur côté et de pas me placer dans la meute. Mais là, en la rencontrant, il s'est passé quelque chose d'assez particulier, c'est que je me suis dit, elle est un miroir qu'elle tendu vraiment dans le contemporain. C'est un miroir face à beaucoup de névroses, c'est comme un produit inflammable. Quand on évoquait son nom, quelque chose se passait, et il m'a semblé que c'était intéressant de questionner ça, sans innocence. Je pense qu'un metteur en scène peut pas embaucher un acteur, une actrice avec l'innocence de penser que c'est une surface de réfléchissante de son propre imaginaire. C'est pas vrai. Les acteurs, les actrices sont chargés de signification de leur film précédent. On n'embauche pas Catherine Deneuve sans penser à Jacques Demy et à Buñuel. On n'embauche pas, pour parler d'actrice que j'adore, Marina Foïs, sans penser à son potentiel comique, à Robin des Bois. Eh ben, on n'embauche pas Zaya Dehar sans penser à son passé d'escorte et son rapport à la prostitution. Et l'idée, c'est de sortir victorieux de toutes ces significations. C'est ce que j'ai essayé de faire avec le film.
Mais alors, précisément parce que on se souvient donc de cette affaire de mœurs à laquelle elle avait été mêlée, des réactions. On disait à l'époque, ce n'est pas un destin souhaitable pour une femme.
Pour une femme sain, connaît... pour une femme convenable.
Alors justement, et on vous connaît comme une cinéaste féministe. Quelle est votre réaction par rapport à la fois à cette polémique qu'il y a eu à l'époque et puis aussi au choix que vous avez fait de la prendre comme actrice ?
La polémique, je reviens pas dessus. Je pense que Zaya Dehar s'est exprimée dessus. En revanche, ça me plaisait effectivement de retendre de reposer la question aujourd'hui et de séparer finalement la question morale de la question esthétique. De se dire, chacun est libre de penser que le parcours de Zaya Dehar est libre de penser qu'il est nocif, qu'est-ce que c'est pas souhaitable, que c'est pas un modèle pour tout un tas de raisons. En revanche, ce qui est certain, c'est que moi je voulais donner une voix à cette femme pour qu'elle n'en ait pas honte. Et je pense que ce qui est gênant, c'est qu'elle n'en retire pas de honte. Et ça peut être transgressif.
On écoute un extrait de votre film Une fille facile, Rebecca Zlotowski.
Vas-y, laisse tomber.
Venez, venez, arrêtez, venez.
Laisse tomber, tu vas passer des pubs.
À qui tu parles, toi?
Ouais, des pubs.
Ah, tu parles à qui, toi? Là, toi, là.
Qu'est-ce que ça? Vas-y, ramène ta mère, casse-toi.
Attends, t'es un fou, toi, tu masques des putes comme ça. Allez, fichez vos oursins, là, et arrêtez de me prendre la tête.
Vas-y, fatigué, casse-toi de là.
Ah, Sophie, il dit la suite de pute, tu dis rien.
Et alors? C'est grave.
Une traite de clochard et elle a dit rien.
Bande de batringue.
Des grands soupus.
Regarde-moi. Qu'est-ce qui t'a apporté le mec là avec qui tu étais cette année? Comment il s'appelle déjà?
Enzo?
Ouais, alors?
Je sais pas, de l'amour.
Ouais, l'amour. Moi, l'amour, ça m'intéresse pas.
Tout le monde s'intéresse à l'amour?
Pas moi. Moi, ce que j'aime, c'est les sensations, l'aventure. Pour moi, les sentiments, ça compte pas du tout. Tu veux que je te donne un conseil? On doit jamais rien attendre. On doit tout provoquer par nous-mêmes. Tu comprends? Tu comprends?
Une scène de votre film, Rebecca Zlotowski, une fille facile. Alors, il faut imaginer cette scène baignée par le soleil de la Riviera. C'est un film d'initiation. Il y a donc deux jeunes filles de 16 et 22 ans. Elles sont donc aux prises avec des hommes qui résident dans un yacht. Il y a une question de différence sociale, peut-être même de lutte des classes. On en a parlé avec un face-à-face entre ces deux jeunes filles et ces deux hommes beaucoup plus riches qu'elle, avec une manière assez désillusionnée d'envisager la vie chez cette jeune fille jouée par Zaya.
Je sais pas si, d'abord, on a entendu quand même sa façon de parler. Faut juste rebondir sur, ce qui est intéressant, c'est de parler d'un projet esthétique, quasiment poétique, en fait, que m'a proposé ce personnage, que m'a proposé cette actrice. Elle a dans la prosodie, dans la façon de parler, un phrasé anachronique, ultra littéraire, élégantissime, beaucoup de mystère, on sait pas vraiment d'où elle vient. Qui m'a fait penser à Romère, qui m'a fait penser à faire dialoguer le film avec la collectionneuse. C'est pour ça que vous entendez, qui est vraiment le grand film de Romère sur son regard sur l'émancipation sexuelle. Et qui est un film que j'aime beaucoup. Et
avec là aussi une attention particulière au corps des femmes.
Oui, puis une manière, sans les fétichiser, mais en faisant, parce que c'était quelqu'un qui venait de la littérature comme moi, des blasons, un blason. C'est-à-dire que oui, j'avais un plaisir à filmer le corps de Zaya Dehar, et le corps de Mina Farid, mais aussi le corps des hommes. Parce que si, et ces hommes qui habitent ces yachts dont vous parlez, ces milliardaires, qui rejouent plutôt en mineur, je dirais pas la lutte des classes, mais une chronique de classe, un peu légère, qui rejoue la question de la domination, du dominant, du dominé, à l'intérieur même de sa propre classe. Ce qui m'a intéressé de travailler avec ce film, à regarder avec ce film, c'était que la violence des rapports de classe, elle était 10 fois plus forte à l'intérieur de sa propre classe qu'entre des classes très, très clivées. C'est vraiment l'équipage du yacht qui regarde les filles avec mépris, à l'intérieur même des dominés et des dominants. Chez les deux milliardaires, il y a un factotum et un propriétaire, entre guillemets, Benoît Magimel, qui apporte sa mélancolie. C'est vraiment quelqu'un qui monnaie quelque chose aussi de lui, qui monnaie son savoir, qui monnaie son carnet d'adresses, son réseau, sa surface sociale. Et tout ça, en fait, c'est une espèce de circulation, qui est une circulation consentie, une mise en scène qui est la nôtre, qui est le monde dans lequel on vit, et qui sont, si on les regarde avec douceur, passionnants à raconter sur le temps d'un été.
Et alors, justement, le fait de filmer le corps de Zaya, qui est un corps étrange, il est quasiment irréel.
Félinien, une créature félinienne.
Comment l'avez-vous filmé? Comment avez-vous choisi de le filmer, Rebecca Zlotowski?
Alors, je pense que c'est, enfin, alors je sais, c'est aux exégètes. Après, c'est toujours difficile. Moi, j'ai peu de, je peux savoir comment j'ai souhaité ne pas la filmer. J'ai souhaité ne pas la filmer sans motiver le regard. Mais je ne souhaite filmer personne sans motiver un regard. Donc, de la même manière. Alors après, on s'amuse. Si vous m'amenez sur le terrain du male gaze et du female gaze, oui, je suis une.
Le female gaze, le regard féminin, parce que c'est une cinéaste féministe, vous-même, Rebecca Zlotowski, qui filme un corps qui est censé anticiper, répondre au désir masculin.
Oui,
est-ce qu'on peut dire les choses ainsi?
Alors, et le susciter? Non, je dirais que le film, enfin, oui, en partie, female gaze, ce serait comment, en gros, redonner le statut de sujet à des objets. Voilà. Comment est-ce que des visages, des corps qui ont été des supports, qui ont été réifiés, qui ont été objectifiés et puis chosifiés un peu par le regard uniquement masculin patriarcal peuvent prendre une autre dimension. Mais bon, moi, je suis pas théoricienne non plus. Je suis cinéaste. Hein. Il se trouve que je suis female et je gaze. Donc oui, peut-être qu'il y a une certaine façon de regarder, mais je dirais que elle est aussi partagée par des confrères à moi. En l'occurrence, il y a une responsabilité effectivement à filmer le corps des très jeunes femmes, le corps d'une femme et le corps d'un homme. Et si on le fait avec sans oublier sa libido, mais avec un peu de loyauté, eh bien on filme le corps de Benoît Magimel, de Nuno Lopez, d'une manière, je sais pas, contemporaine, différente, séduisante. Et pareil avec Zaya, c'est-à-dire on peut utiliser les codes du clip, en gros, basculer comme un scanner la caméra des pieds, en passant par la cambrure des reins, qui est la spectaculaire, et jusqu'au haut du bout des seins. Mais c'est aussi, il faut aussi le montrer d'une autre manière.
On va écouter un autre extrait de votre film Une fille facile, Rebecca Zlotowski, où justement il est question de chirurgie esthétique.
Je peux vous poser une question franche?
Bien sûr, ben oui.
Mais bon, vous me dites si vous la trouvez indiscrète.
Hein. Ah non, pas du tout.
T'as quel âge?
22 ans.
Hein, c'est ce que je pensais. Mais c'est fou, ça, quand même.
Qu'est-ce qui est fou?
Bah, je ne sais pas, faire autant de chirurgie esthétique. À ton âge, je comprends pas, en fait. Je te trouve très jolie, pourtant. Non?
Bah, merci.
Pourquoi merci?
Bah, de dire que je suis jolie, c'est... Oui, c'est gentil. Mais vous aussi, vous êtes tellement belle.
Merci. Et c'est peut-être parce que je touche pas mon visage. C'est peut-être ça. Lutter, je trouve que ça, c'est pathétique. C'est comme si je refusais la mort, tu vois. En plus, sincèrement, j'ai l'impression que ça vieillit. Non, vous trouvez pas?
Pathétique? Non. Moi, je trouve ça plutôt touchant.
Touchant?
Ouais.
J'aime beaucoup votre maison, elle est vraiment belle.
Ah, c'est gentil, merci.
En fait, c'est mon rêve d'avoir la même chose à votre âge. Il fait chaud, non? Est-ce qu'on peut aller se baigner?
Bah, évidemment, profite-en.
Là, j'ai vraiment chaud.
Bah, évidemment. Bah, tu veux pas te baigner, toi aussi?
Non, monsieur.
Et la scène se termine, Rebecca Zlotowski, avec Zaya Saint-Nu. C'est une scène qui résume différents antagonismes, antagonismes de classe, puisque Clotilde Courau, dont on a entendu...
Enfin, elle se déboutonne, mais elle finit pas Saint-Nu la scène, elle finit sur Clotilde Courau, Benoît Magimel et Mina Farid. Mais votre œil est peut-être gardé.
On voit la nudité, oui, de Zaya, vous la montrez, Rebecca Zlotowski ne le niait pas.
Bien sûr.
Et il y a différents antagonismes qui sont présent, il y a un antagonisme de classe, un antagonisme d'âge qui est rappelé par ces deux personnages, et une scène aussi de semi-humiliation sociale, ou de tentative d'humiliation sociale, puisque Clotilde Courau, en tant que Zaya, le personnage de Zaya, évoque Marguerite Duras et fait mine de contester le savoir que Zaya aurait de l'œuvre de Duras. Et
elle la mouche un peu, oui.
Mais en tout cas, on voit effectivement ce personnage mystérieux et les réactions qu'elle suscite, réactions d'animosité.
Oui, bah, vous l'évoquiez un petit peu au début de cette interview. Je pense que il y a une, ça m'intéresse la violence que peut susciter un corps. C'est quand même rare. Il y a peu d'actrices, d'acteurs, de personnes qui peuvent susciter des émotions si contradictoires. Elles sont dignes d'être adressées. Là, dans cette scène. Vous parliez de chirurgie esthétique, je trouve ça parfois... C'est intéressant de raconter un moment...
C'est Clotilde Courau qui en parle.
C'est Clotilde Courau, oui, mais même vous, au début, quand vous présentiez l'actrice Ayader. Donc il y a une façon de regarder sans hypocrisie, mais sans hypocrisie des deux côtés. C'est-à-dire, oui, il y a des gens qui appartiennent à leur époque, c'est-à-dire qui peuvent trafiquer leur visage, trafiquer quelque chose, mais d'une manière ni plus ni moins que la bourgeoise, la grande, ou la grande bourgeoise, qui essaie de le faire d'une manière très discrète et très invisible. Et de l'autre côté, sur la question du patrimoine associé à la sexualité, il y a, dans la scène, Clotilde Courau incarne une grande bourgeoise qui habite une maison, une propriété démentielle, affolante en Italie, et qui manifestement a fait un beau mariage et qui serait l'origine de son patrimoine. Et en face, cette jeune femme qui, elle, profite de son plaisir un été et qui prend les cadeaux qu'on lui donne parce que ça coûte peu à ceux qui les donnent et elle les prend volontiers. Donc elle se situe où, en fait, la barre de ce qui est acceptable et c'est où la question de la morale? Et est-ce que c'est une jeune femme qui aurait envie de s'acheter un sac ou est-ce que c'est une femme qui le vendrait dans une publicité, mettrait son talent comédienne au service de la vente d'un sac? Et cette circulation-là des richesses et cette circulation-là du libéralisme. Donc voilà, il faut ce qui est beau, c'est de se poser les questions. Et si les points d'interrogation sont posés, c'est pas mal.
Et justement, s'il y a un monde aussi désillusionné chez Zaya, est-ce une manière aussi de ne pas répondre à la contrainte, au patriarcat, bref, de ne pas rentrer dans le système où on aimerait la faire entrer?
Moi, c'est certain, dans tous les cas, je pense que le personnage de Sophie est un personnage libre et qu'il est porté par une actrice libre. Et que là, il y a une part de transgression qui est associée, je pense, hein, moi, c'est mon point de vue, plus à la sexualité. Je crois que c'est vraiment dans cette idée de ne pas avoir honte de la sexualité, fût-elle transgressive qu'elle a portée, tarifée, inacceptable pour plein de raisons, hein, moralement pour beaucoup. Je pense que c'est là qu'il y a un discours quasiment libertaire. Et au cœur du film, c'est pas un hasard s'il y a vraiment un écho avec Le banquier anarchiste de Pessoa, qui est un texte qui compte beaucoup pour moi, qui est cité beaucoup par le...
Oui, parce qu'il faut rappeler et dire que dans ce film, l'un des personnages masculins qui est, je ne vais pas divulgâcher le film, mais probablement pas le personnage le plus sympathique de ce film, a une sorte de posture anarchiste, mais c'est un anarchisme de pacotille.
Disons que c'est un anarchisme de salon et en même temps un paradoxe intéressant. Je ne sais pas si c'est uniquement de pacotille, parce qu'évidemment c'est un collectionneur ultra friqué qui est coté en bourse, donc c'est l'enjeu d'une conversation entre la poire et le fromage, dans ces endroits splendides qui rappellent un peu la conversation. Au moment où je vous le dis, après j'ai honte tout de suite de faire allusion à ce film comme s'il y avait une parentèle, alors que je vois ça vraiment comme une citation lointaine, mais... Dans Le Mépris, il y a ces conversations où on est très longue focale, on est loin, et c'est Michel Piccoli et Fritz Lang qui discutent à travers les ronces du rocher de Capri. Et là, c'est vrai qu'on reprend une conversation comme ça de loin, et c'est un peu avec un digestif, on discute de notre côté anarchiste, alors qu'on a Amare Liot à côté. Donc oui, il y a une part...
Il y a un parallélisme avec Le Mépris.
Le mot, c'est l'indécence, en vrai. Il y a une part d'indécence. Et ce qui me plaît, c'est qu'il y a une part d'indécence chez Zaya Dehar et une part d'indécence chez eux.
Mais puisque vous évoquez Le Mépris et qu'on peut y songer, puisque le personnage joué par Zaya a été rapproché de celui de Brigitte Bardot, il y a bien évidemment la lumière, la Méditerranée, bref, beaucoup de points communs avec Le Mépris. Et puis justement les antagonismes qui sont au cœur du Mépris et au cœur de votre film, avec une question peut-être lancinante: qui domine qui? Puisque là aussi, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, Rebecca Zlotowski.
Dans le meilleur des cas, si on parle d'amour dans un couple, dans le meilleur des cas, c'est plutôt alternatif, comme en physique, un courant qui s'inverse. Un jour, quelqu'un nous domine et puis l'autre, le lendemain, c'est nous. Enfin, si on veut voir ça comme un rapport de force, mais j'imagine que les rapports peuvent être plus doux. C'est pareil dans la vie. Idéalement, quand on possède toutes les armes, on accepte de se laisser dominer un jour, mais le lendemain, on prend le dessus sur autre chose. J'ai l'impression que, in fine, en tous les cas, c'est ce que le conte, qui est comme une carte postale, qui est léger, hein, comme une plume aussi. Ce qu'il essaye de raconter, en tous les cas, c'est qu'in fine, je crois que l'argent gagne.
Oui, parce qu'il y a un antagonisme dans ce film, Une fille facile, votre film qui sort en salle aujourd'hui, Rebecca Zlotowski, entre les rapports de domination de sexe et les rapports de domination de classe, et puis d'autres rapports de domination qui se glissent, comme la beauté, la jeunesse aussi, qui est une forme d'injustice absolue, parce que on voit ce corps irréel qui est avant tout le corps d'une jeune femme. Il n'est pas si évident que ce soit les rapports d'argent qui dominent.
Qui triomphe à la fin. En tous les cas, moi c'est mon point de vue, mais après ce qui est intéressant, c'est que le film m'appartient plus. Je pense que l'exact du film, c'est un exact qui est tiré de Pascal, c'est la chose la plus importante à toute la vie, le choix d'un métier, le hasard en dispose. Et je crois que si on se dit l'une des choses les plus importantes, je crois, dans le qui font destin, c'est le choix de son métier. Et ce qui m'intéressait de raconter, c'était que on peut triompher peut-être de l'existence en l'ayant choisi, en l'ayant consenti, c'est-à-dire en ne le subissant pas. Et en ce sens, peut-être que l'argent triomphe un peu à la fin des rapports de classe, mais ceux et ou celles qui sortent victorieux de leur propre destin sont ceux qui ont choisi, sans honte, leur destinée.
Une fille facile, c'est votre film, Rebecca Zlotowski.
C'est le mien.
Qui sort aujourd'hui en salle. Et puisque vous avez parlé de choix de métier, dans quelques minutes, vous restez en notre compagnie, Rebecca Zlotowski. On va recevoir une romancière, Emma Becker, qui a choisi pendant 2 ans de travailler dans des maisons closes à Berlin et qui en a tiré un roman qui paraît chez Flammarion, qui évoque à nouveau les questions dont on a parler ensemble, autrement dit, rapport de sexe, rapport de classe, et puis la manière dont on peut ou non juger de la moralité de ces différentes situations. 8 heures sur France Culture. Et on retrouve la cinéaste Rebecca Zlotowski. Son film Une fille facile sort en salle. Aujourd'hui, il est question d'été, de corps à languide, de temps qui file, de passage initiatique, mais aussi de choix. C'est une sorte de conte, un conte amoral, diront certains. 2 femmes, 2 cousines, 16 et 22 ans, qui prennent des voies différentes. La première adolescente est une bonne fille et la seconde est interprétée par la célèbre ex-escort girl Zaya avec un face-à-face entre ces deux jeunes femmes et les hommes. Et puis un autre conte à morale, conte d'ailleurs le terme est pour le coup imprécis puisqu'il s'agit d'un témoignage. Emma Becker, bonjour, vous publiez La Maison aux éditions Flammarion. C'est le récit de votre séjour durant 2 ans dans des maisons closes berlinoises. Et si je dis cela, c'est justement parce que il y a 2 lignes qui ont attiré mon attention au dos du livre, et ces 2 lignes, elles ne sont pas de vous mais de votre éditeur. Il est dit, Emma Becker a 30 ans, elle est écrivain, elle vit à Berlin où durant 2 ans, elle a travaillé dans une maison close. Et s'il n'y avait pas ces 2 lignes, finalement on ne saurait pas s'il s'agit d'un roman purement inventé ou bien d'un témoignage. Qu'est-ce que ce livre ? S'agit-il d'un document comme un journaliste pourrait en écrire, d'une œuvre de fiction ? Bref, comment le qualifier ?
En tout cas, certainement pas de récit. Moi, je l'ai toujours vécu, conçu comme un roman. C'est vrai que j'ai commencé dans une lancée qui était peut-être un peu plus journalistique. Et puis, au fil du roman, en fait, c'est vraiment devenu un travail littéraire, un travail d'écrivain. Travailler dans une maison close, c'était à plusieurs niveaux. J'y ai écrit mon livre, j'y ai travaillé. Et puis, je suis devenue une de ces filles aussi. Donc la barrière entre la littérature et le journalisme était vraiment très de plus en plus ténue.
Est-ce que ça veut dire que tout ce que vous écrivez est vrai ? Est-ce que ça veut dire qu'on s'en fiche et que finalement on n'est pas du tout là pour savoir si la littérature, car c'est un objet littéraire, entretient un rapport avec la vérité, puisque c'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Yann Moix fait par exemple la couverture de Libération et on s'interroge pour savoir si le roman qui évoque son enfance est un roman vrai ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Emma Becker ?
De la réalité dans la fiction, je pense que quand on lit une bonne histoire, quelque chose qui nous transporte, on se pose pas forcément la question de si ça a été réel ou pas. Enfin, on se laisse un peu transporter par l'histoire. En l'occurrence, la prostitution est une telle fiction déjà pour commencer que voilà, la barrière entre réalité et l'invention est aussi ténue. Donc c'était vraiment un travail sur l'autofiction en fait.
Justement, je vais lire un extrait de votre livre. Ce métier, écrivez-vous, est peut-être celui où, ça n'étonnera personne, on voit sa virginité la plus rapidement déflorée. Je parle là de l'innocence qu'il y a à penser qu'il y est facile de rester 11 heures assise à attendre le client avec la promesse de recevoir un salaire mensuel avoisinant les 5000 euros. Et si l'on a comme moi un livre qui ne demande qu'à être écrit et plus de la moitié de ces 11 heures totalement libre, ça semble un marché tout à fait équitable. On voit le caractère assez provocant qu'il y a dans ce récit, car on peut dire que la totalité de ces pages sont de la même pâte. Pourquoi avoir choisi cette expérience, Emma Becker ?
Mais moi, c'était une expérience qui m'avait toujours fascinée par tout ce que j'ai lu, en tout cas quand j'étais petite. Donc, je parle notamment de Boule de Suif, de La Maison Tellier, des romans de Calafert, Septentrion, ou quand même
Maupassant,
exactement, où il y a quand même énormément de prostituées, énormément de maisons closes. C'était une énorme partie de notre culture littéraire et puis même de notre culture tout court. Et c'est vrai que j'ai grandi en étant fascinée par ces femmes que je trouvais extrêmement puissantes. Ne serait-ce qu'à cause du stigmate qui est posé sur elle, il y avait quelque chose de presque sacré là-dedans. Et quand je suis arrivée à Berlin et que j'ai fini par capter que tout ça était légal, je me suis tout de suite dit qu'il fallait absolument que j'entre dans une maison close et que je vois comment ça se passe vraiment dans ces endroits-là. Et je ne pouvais pas y aller en tant que journaliste. En tout cas, il fallait vraiment que je fasse partie de l'équipe, quoi.
Mais précisément, c'est cela qui témoigne d'un intérêt soutenu pour la littérature ou de ce que vous êtes prêt à faire pour justement écrire un livre ?
Non, non. C'est-à-dire, il y avait vraiment, comme je disais, une dimension littéraire et puis aussi une attirance presque enfantine pour cette espèce de monde interdit, enfin en tout cas interdit en France. Et ça me semblait une espèce de miracle que ce soit autorisé en Allemagne, qu'on puisse y rentrer, qu'on puisse parler à ces femmes, qu'on puisse s'en approcher. C'était une curiosité à tous les niveaux, en fait.
La différence qu'il y a entre Maupassant, entre les récits que Zola font de ce qui se passe dans les maisons closes, outre le temps, puisqu'il y a plus d'un siècle et demi qui a passé, c'est le fait que vous, vous êtes une femme, Emma Becker. Qu'est-ce que ça change? Et justement, vous l'écrivez, vous êtes a priori entrée dans une maison close au début pour voir comment fonctionnaient les hommes.
Oui, mais c'est ça, j'ai passé la moitié de ma vie, enfin la grande partie de ma vie à penser vraiment que j'écrivais sur les hommes. En fait, je m'aperçois que les hommes sont plutôt accessoires dans mon parcours. C'est vraiment les femmes, les femmes qui me fascinent. La différence entre le regard d'un homme sur le bordel et le regard d'une femme, elle est essentielle parce que les hommes sont jamais que des clients et ce sont les femmes en fait qui font cette maison, enfin celle dont je parle. Et d'une manière générale, les maisons closes sont tenues par des femmes, pour des femmes. Enfin, c'est comme ça que ça devrait l'être. Et il me semblait que dans toute cette littérature assez fournie sur les maisons closes et sur les prostituées, il manquait quand même le truc essentiel, c'est-à-dire la perspective d'une fille qui travaille là-dedans, qui est au contact des hommes, de l'ordure, des hommes, de la faiblesse, des hommes, de la beauté aussi, des hommes au quotidien.
Qu'est-ce que vous avez appris justement sur l'humanité en travaillant dans une maison close, Emma Becker ?
Énormément de choses. Enfin, je vais peut-être commencer déjà par la vulnérabilité des hommes, enfin, qui est quelque chose qu'on a tendance un peu à oublier au jour le jour. Mais quand on est comme ça, en contact avec des hommes quotidiennement, on s'aperçoit qu'en fait, le sexe, dans une certaine mesure, est assez accessoire. Ce que les hommes recherchent, surtout, c'est la proximité des femmes. C'est la possibilité d'être écouté par des femmes quand ils ne le sont jamais au quotidien. La possibilité...
Pourquoi ne le font-ils jamais au quotidien?
Tous les hommes n'ont pas la chance d'avoir des femmes qui les écoutent, qui prennent soin d'eux, qui sont gentils avec eux. Et je pense que cette tendresse qui manque est quelque chose de très abrasif. Et que plus que le contact physique ou que l'orgasme ou que le fantasme, les hommes recherchent vraiment la proximité des femmes, même si c'est en payant.
C'est ce qu'il y a d'ailleurs de paradoxal dans La Maison, l'ouvrage que vous publiez, Emma Becker, chez Flammarion. C'est que finalement, la scène de sexe peut-être la plus crue, c'est celle que vous décrivez avec votre petite amie.
Oui, je trouve, merci de le noter, c'est je trouve que finalement il y a assez peu de scènes salaces. Je trouve que celle-là est peut-être la plus intime effectivement, parce que le sexe qu'on rencontre d'une manière générale au bordel est selon mon expérience quelque chose d'assez plat. Quoi. Quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on s'imagine, nous, quand on a lu ça, ou quoi, alors des fantasmes invraisemblables. Pas du tout, c'est quand même très, très classique, ça porte vraiment sur l'envie qu'ont les hommes de toucher une autre femme que la leur.
Et justement, l'écriture de l'intime, puisque c'est vous qui prononcez le mot, lorsque vous faites entrer le lecteur dans ce roman, il est d'abord question de votre enfant, c'est lui qu'on découvre, puis ensuite d'une scène intime avec votre petite amie à qui vous offrez entre guillemets une autre femme. C'est ainsi que débute votre livre. Qu'est-ce que ça fait d'écrire, de livrer son intimité à ces lecteurs, des lecteurs que l'on ne connaît pas, Emma Becker?
Après l'intimité, ça dépend où on la place. Moi personnellement, c'est plutôt quelque chose qui me fait vivre de pouvoir raconter comment j'ai vécu une expérience donnée à un moment donné. Pour moi, c'est quand même ça le but de la littérature, c'est qu'en lisant un livre, le lecteur va se sentir d'un seul coup moins seul avec ses préoccupations et proche de l'auteur, et que à un moment donné, il se dira voilà, là on m'a compris, là je me suis senti compris, j'ai l'impression d'avoir été moins seul à ce moment-là.
Le but de la littérature, en tout cas de votre littérature, c'est aussi de composer un tableau qui n'est pas seulement un tableau informatif. Par exemple, chaque chapitre porte le titre d'une chanson. Il y a par exemple Breeze Blocks d'Algy. On ne connaît pas toujours toutes ces chansons. On ne comprend pas toujours pourquoi vous avez choisi ces différentes chansons pour illustrer les différents chapitres. Mais c'est pas seulement un ouvrage d'information, Emma Becker.
Ah non, pas du tout. D'ailleurs, le travail est plutôt sur la féminité, enfin sur ma féminité à moi, mon évolution en tant que femme. Après, puisque vous le soulignez, les chansons que je mets en exergue sont des titres que je passais quand je travaillais à la maison. Je m'étais fait toute une playlist qui contribuait à me faire sentir aussi chez moi dans ces chambres-là. Donc, plus qu'un ouvrage d'information, d'ailleurs je ne pense pas vraiment que ce soit, si c'est un ouvrage d'information, c'est plutôt sur ce que ça fait d'être une femme, et comment ça varie, et comment les couleurs l'ampleur que ça prend selon les années qui passent.
Je parlais du caractère provocant de votre livre, notamment, pas uniquement, mais notamment parce qu'on se dit que c'est une expérience qu'on ne souhaite pas pour ses proches, qu'on n'a pas envie d'entendre quelqu'un dire qu'il va vivre cela, parce que prostituée, c'est a priori un métier que l'on considère comme étant dégradant, humiliant. Vous ne parlez pas de cela ou à peine, Emma Becker ?
Non, c'est-à-dire j'effleure quand même le ras-le-bol des hommes, la fatigue, tout ça, mais...
Et celui des femmes.
Et celui des femmes, exactement.
Mais c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre.
Sur le ras-le-bol des femmes, vous voulez dire ? C'est-à-dire que c'est pas un métier comme les autres dans la mesure où on est payé à livrer notre intimité, c'est-à-dire à faire de la place à ces hommes, à se faire une petite place dans leur vie. Donc forcément, on ressort de là plus vidé qu'avec n'importe quel boulot physique. C'est-à-dire que ça demande d'une énergie mentale qui est phénoménale, mais qui pour moi n'est pas très différente du ras-le-bol de n'importe quelle personne qui travaille quotidiennement dans un bureau à faire un boulot qui l'emmerde. Moi j'étais contente de me lever le matin.
Mais pour beaucoup d'individus, beaucoup de personnes, beaucoup de féministes, mais pas uniquement, l'abolition de ce métier est considérée comme étant une priorité. Qu'est-ce que vous en pensez, Emma Becker ?
Je pense que c'est une imbécilité complète. Il me semble que là où on en est... La prostitution a toujours existé, elle existera toujours. Maintenant, le choix qu'on a, c'est est-ce qu'on fait semblant que ça n'existe pas et on se retrouve avec des femmes qui travaillent dans des conditions abominables, ou est-ce qu'on décide d'être un peu adulte et de faire en sorte que ces femmes aient les moyens d'exercer leur métier dans des conditions décentes et sans le stigmate perpétuel ?
Qu'est-ce que vous en pensez, Rebecca Zlotowski ?
Mais quelle programmation scandaleuse sur France Culture ce matin ! Je suis évidemment très intriguée et intéressée à lire votre roman, Emma Becker. Moi, ce que j'en pense, je ne me place pas du côté du sujet de société. Je ne pense pas que le roman d'Emma Becker, tel qu'elle le relate, tel qu'elle le témoigne aujourd'hui, se place non plus.
Je vous rappelle que le film de Rebecca Zlotowski met en scène une ex-prostituée
absolument, Zaya Dehar, qui s'est fait connaître dans une affaire de mœurs où elle était mineure à l'époque.
Et là aussi, il est difficile de regarder les films sans avoir ça présent.
Bien sûr, où il est souhaitable d'avoir ça à l'esprit. Et d'ailleurs, le film lui-même n'essaye pas d'effacer. Disons que on pense à la maison Tellier Boule de Suif, ce qui était fascinant effectivement dans ces immenses nouvelles du 19e, c'est qu'il était question, il fallait à un moment donné que ces prostituées deviennent des saintes quelque part. Il fallait à un moment racheter, peut-être aussi que les Dames du Bois de Boulogne, enfin le film de Bresson inspiré de Diderot, sur le rapport à la prostitution. Il faut que d'une certaine manière, les femmes qui vendent leur corps se rachètent, et où l'homme qui les regarderait avec loyauté se dirait, finalement, ce sont des saintes. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse de dire, et peut-être c'est ça qui me donne aussi envie de lire votre roman, et puis de... Moi, j'ai essayé de me faire inviter sur des yachts, ça n'a pas marché. Donc, j'ai beaucoup de respect pour vous qui allez au bout de la démarche. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe si, sans honte, on reconnaît que, même s'il y a un rapport à la sexualité qui est, vous le dites, pas souhaitable pour ses proches, moi, j'en sais rien. Je veux dire, moi, ce que je souhaite pour mes proches, c'est qu'ils fassent quelque chose qui les épanouisse, qui les rende heureux, et éventuellement autonomes. Donc autonomes psychiquement, sexuellement, financièrement. Ce n'est pas le cas de tout le monde, hommes, femmes confondus.
Ce n'est pas le cas des prostituées, puisque, a priori, là.
Oui. Et je pense
autonome que, sexuellement.
Bah, bien sûr que oui, autonome sexuellement, c'est-à-dire si vous évoquez une sexualité avec votre compagnon et un métier qui est du côté de la sexualité. Après, je conçois que ce soit étrange. Il y a des auteurs. Ça m'intéresserait de relire Griselda d'Israël aujourd'hui, par exemple, et de me demander quelle est la part. J'ai l'impression comme
qui est une prostituée qui a
prostituée théoricienne écrit de la prostitution. Et puis bon, peut-être que ça c'est et qui apprenait la part sociale, sociétale de ce métier.
Emma Becker.
C'est intéressant parce qu'il y a quand même, vous parlez d'autonomie. Il y a quand même une forme d'aliénation dans ce métier du désir, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit après un certain temps, on a beau aimer les hommes comme moi, je les aime par exemple, il y a quand même un moment où on s'aperçoit que le désir est complètement rouillé, c'est-à-dire quand on fait ça, et c'était ça aussi l'un des trucs qui m'a quand même le plus heurté, c'est qu'au bout d'un moment, on n'a plus vraiment envie des hommes, c'est-à-dire c'est devenu un travail. Mais après, est-ce que la liberté est esprit, je ne sais pas.
Rebecca Zlotowski.
Ouais, ce qui nous intéresse, c'est de sortir le. Moi, je vois ça de mon point de vue, qui est celui d'une cinéaste. La question, en fait, que vous évoquez, qui m'intéresse, c'est quel est le rapport à l'intime et l'extime. Qu'est-ce qui est plus puissant à donner pour une actrice, par exemple, ou un acteur. Est-ce que c'est ses larmes ou est-ce que c'est sa nudité? Est-ce que c'est une scène de sexe non simulé ou est-ce que c'est une scène d'émotion bouleversante dans laquelle les acteurs, les actrices vont puiser dans le tréfonds de quelque chose de humainement très, très, très complexe, sans doute très engageant. Et là, en fait, c'est là où on peut pas regarder ça. Et finalement, ça repose sous la question de l'affaire du post-Weinstein. C'est-à-dire de se dire qu'est-ce qui circule, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable et pourquoi, sur un registre théorique, demander à une actrice de pleurer ou un acteur de pleurer devrait être à égalité à lui demander de sortir son sexe. Et pourtant, moi je vois bien, nous savons bien que ça n'est pas tout à fait la même chose et que et c'est ce ça n'est pas tout à fait la même chose qui est digne d'être questionné, mis en scène et affronté.
Encore, Kemma Becker, dans votre livre La Maison, il est finalement question d'une sorte de comédie humaine. Alors le sexe y a sa part, bien entendu, puisque cela se déroule dans une maison close, mais vous faites des portraits d'hommes et de femmes, non pas uniquement dans les circonstances où ils feraient l'amour, mais plus généralement dans leur manière d'appréhender leur vie, leurs angoisses existentielles et les manières assez improbables qu'ils ont de tenter d'y remédier. Parce que finalement, c'est une humanité un peu, même très largement désenchantée et mélancolique que vous décrivez.
Oui, oui, c'est vrai qu'il y a une forme de désenchantement, mais en même temps, cet enchantement revient quand on s'aperçoit que bah, les filles ramènent les hommes à la maison après le travail et les hommes ramènent aussi les filles à la maison. Et qu'en fait, peu importe l'argent qu'on donne, c'est limite, ça n'a strictement rien à voir avec ça. C'est toujours cette tentative.
C'est quand même important parce que vous décrivez, pardonnez-moi, je vous ai coupé, vous décrivez très précisément la manière dont telle ou telle chose sera tarifée différemment, la manière dont le temps est mesuré, ouais. Bref, des choses qui sont a priori parfaitement contradictoires avec la représentation qu'on peut se faire de l'amour romantique.
Ah, mais ça n'a strictement rien de romantique. Enfin, c'est-à-dire c'est romantique si on accepte d'y croire. Manifestement, les hommes qui vont au bordel acceptent d'y croire, se satisfont du fait de payer une femme pour une demi-heure et que pendant une demi-heure, il y ait que sur Terre. Mais ce qui m'a beaucoup surprise, moi, c'est que on aurait tendance à penser que les hommes, en donnant de l'argent, prennent le pouvoir. Et en fait, pas du tout. L'argent qu'ils donnent, les rapetissent vraiment. Et les femmes prennent ces espèces de proportions de déesses à partir du moment où on les paye pour n'être que des femmes. C'était pour ça une expérience assez intéressante au niveau de la féminité.
Rebecca Zlotowski, là aussi dans le fait d'avoir une vision désenchantée, puisque on l'évoquait tout à l'heure dans votre film Zaya Dehar, fait part de sa perplexité face à l'amour. Ça n'est pas véritablement quelque chose dont elle considère qu'il anime la vie. Est-ce que ça n'est pas là aussi un trait d'époque de montrer des individus qui ne croient plus dans la part romantique de l'existence?
Peut-être. Peut-être qu'il y a une part. Alors, moi, je pense que je dirais plutôt qu'ils ont une foi dans la dimension vitaliste de la sensation, de l'excitation, de la libido libidale. Il faudrait le voir un peu plus à... Moi, j'aime les récits optimistes. Hein. Donc, l'idée, c'était pas de raconter pour qui verra le film aujourd'hui ou dans les jours à venir. C'est pas du tout un personnage cynique. Il n'y a pas de cynisme dans le personnage incarné par Zaya Dehar dans le film. En revanche, il y a du contemporain à l'idée que non, c'est plus une figure de jeune fille qui attend l'amour. C'est plutôt une figure d'une jeune femme qui suscite du désir et qui va chercher son plaisir, et qui va chercher de l'excitation et qui traverse la vie comme une aventurière et comme une aventure. Je me place plutôt de ce côté-là. Si ça passe par un discours un peu atypique qui renouvelle un peu quand même aussi un discours très attendu sur à quoi rêvent les jeunes filles, est-ce qu'elles pensent à l'amour, etc. On peut se dire, on peut quand même aussi envisager qu'il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui la traversent et notamment du côté du corps. Une dernière chose, c'est on parle beaucoup de sexualité, de prostitution concernant Zaya Dehar. Moi, je pense que si on sépare les hommes de leurs œuvres, si on demande à séparer les artistes de leurs œuvres, il faut aussi arriver à concevoir cette femme comme elle a un passé de prostituée, elle le revendique sans aucune honte, peut-être même qu'elle continue, elle aurait le droit. Mais dans mon film, c'est une artiste, c'est une actrice.
Et justement, lorsqu'on parle d'expérience, parce que vous, c'est effectivement de la littérature de l'expérience, Emma Becker, puisqu'à la différence la différence de Maupassant, non, puisqu'il s'était largement documenté sur les bordels qu'il fréquentait assidûment, vous avez fait plus que vous documenter, puisque vous avez incarné une prostituée.
C'est-à-dire, comme je vous dis ça, c'est à peu près impossible de toute façon d'interroger ces filles comme ça. Enfin, c'est pas très honnête. Il me semblait quand
même. Mais je parlais pas sur la méthode. Je parlais vous de sur le plan quasiment existentiel, le fait d'écrire et d'avoir une expérience complète de l'écriture, puisque c'est ce que vous proposez dans la maison.
Mais c'est plutôt une expérience complète de la féminité. C'est-à-dire que je trouve que être une femme, c'est un état qui est tellement passionnant que pouvoir en accumuler toutes les facettes et les décrire. Enfin, pour moi, c'est ça le challenge aujourd'hui, c'est d'écrire plus sur les femmes de manière plus complète, sous toutes les formes que ça peut prendre. Et c'est vrai qu'on se voit soi-même dans une expérience comme ça se transformer mois après mois, et on touche aussi ses limites et on comprend beaucoup de choses sur le désir et la complexité du désir féminin, de comment il se réveille, de comment il s'éteint et d'à quel point il peut être...
Là, c'est plutôt l'extinction que vous avez racontée.
L'extinction du désir, mais enfin, ceci dit, il y a quand même des scènes où le désir renaît après des années de maison close. Enfin, je pense à cette scène dans le parc, où vraiment on voit que cette fille qui a bossé 3 ans dans un bordel, tout à coup, pour le premier homme qui ne la paye pas, ressent une excitation énorme. Et c'est ça aussi la magie du désir féminin, c'est qu'il renaît de ses cendres.
Et lorsque vous parlez de toutes les facettes de l'existence féminine, c'est peut-être parce que vous allez consacrer un livre à la maternité ?
C'est en projet, enfin sur le changement que ça représente en tout cas dans la vie de quelqu'un d'égocentrique comme moi, de tout à coup se retrouver avec...
Pourquoi égocentrique ?
Je pense que c'est aussi le fait que j'écrive qui veut ça, c'est-à-dire comme j'écris sur mes expériences, sur moi, sur mon évolution en tant que personne à un moment donné, d'un seul coup se retrouver avec un enfant, c'est vrai qu'on n'est plus la personne la plus importante de sa vie et c'est une transition qui est passionnante.
Et puis alors, on songe aussi, on a évoqué les rapports de domination entre les hommes et les femmes avec Rebecca Zlotowski. On songe également à ces rapports de domination, à la manière, c'était Rousseau qui évoquait ce thème, la manière dont les femmes mesurent la quantité de sensualité qu'elles apportent aux hommes. Et évidemment, en lisant votre livre, on pense à ça parce que vous décrivez très bien la mécanique de l'horloge et la mécanique du tarif. On a l'impression que dans ces moments-là, ce sont les femmes qui dominent absolument les hommes.
Oui, dans ces moments-là, comme dans pas mal d'autres moments, de toute façon. C'est-à-dire je trouve qu'en faisant cette expérience, je me suis quand même rendu compte que le bordel était une espèce de miroir grossissant et qu'on s'apercevait du rapport schématique entre l'homme et la femme, qui est que l'homme est quand même assez transi d'effroi devant la puissance des femmes. Et d'être enfermé comme ça dans un cadre temporel, il y a une espèce de jubilation et de cruauté là-dedans qui était une expérience très riche.
Mais ça, c'est pas commun, parce que d'habitude, on a plutôt tendance à dire que la question, c'est d'abord celle du patriarcat.
Oui, mais je pense qu'il y a moyen de retourner ce patriarcat et de jouer avec. Et moi, cette expérience m'en a donné l'occasion.
Qu'est-ce que vous en pensez, Rebecca Zlotowski, sur la question des rapports de domination, la possibilité de les inverser ? Alors, le personnage de Sophia, autrement dit celui que joue Zaya dans Une fille facile, votre film, elle inverse là aussi en partie ces rapports de domination.
Elle inverse de manière ponctuelle, mais je pense aussi à l'intérieur même du couple masculin, c'est pas forcément entre hommes et femmes, à l'intérieur même de la classe des dominants, le milliardaire et son factotum Benoît Magimel, pareil, il y a des reprises de pouvoir. Moi, je suis optimiste. Je pense que les choses vont dans le bon sens si on en retire la honte.
Si on retire la honte,
si on affronte avec sans hypocrisie les problèmes et si on donne des possibilités à chacun de faire destin de manière personnelle.
Bah, peut-être qu'un optimiste convaincu ou intégral considérerait que la domination n'existerait plus dans la lutte des classes. À la fin, il n'y a plus de classe.
Est-ce qu'on y arrive ? Comment on y arrive ? En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est la mise en scène de ça. Ce qui m'intéresse, c'est les espaces de fiction qui nous permettent de poser des questions. Moi, je suis pas une idéologue sur ce registre. Je peux voir.
Non, mais combien... vous avez un point de vue.
Bien sûr. Et il est dans le film, je pense. Je pense qu'il est vraiment, émis là-dessus.
Un mot de conclusion, Emma Becker, à ce sujet. Est-ce que, justement, il est possible d'être optimiste aujourd'hui sur les rapports hommes-femmes, ou bien est-ce que cette expérience vous a rendu, au contraire, plutôt pessimiste ?
Non. Moi, je suis plutôt optimiste là-dessus. En tout cas, je pense que... Il faut avoir de l'optimisme parce que les femmes sont quand même en train de se réveiller de manière massive. Je pense qu'on a quand même de beaux jours encore devant nous.
On va voir cela, en tout cas, Aimée à Becker, La Maison. C'est publié chez Flammarion, Une fille facile. C'est votre film, Rebecca Zlotowski. Vous restez en notre compagnie. Je vous présente mes camarades TTC. Transition, Hervé Gardet, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Aujourd'hui, vous nous évoquerez...
Le bon dosage en matière d'électrochoc, puisque vous savez que je suis en transition depuis quelques jours.
Mathilde Serrel, votre théorie.
Le point commun entre Apocalypse Now, qui sort aujourd'hui en nouvelle version, et le dernier Tarantino, c'est une certaine conception des faits alternatifs.
Et enfin, la conclusion d'Aurélien Bélanger.
Est-ce qu'on peut, est-ce qu'il faut canoniser Chesterton ?
Quelques notes d'Algy. Cedrazine, your fever's greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the wild things go? They go along to take your honey. Right down how we build our breakfast down and say, my love, my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle, toe to toe. The fever's grip me, but here I go. My heart sinks. 8h45 sur France Culture.